Vous écoutez le Calicast, le premier podcast français sur Doctor Who.
Salut, salut et bienvenue dans le Calicast épisode 103. Et oui, 103 déjà. Ça fait beaucoup de Calicast que je fais, ça fait 3. Bon, c'est pas beaucoup. Bon, avec moi ce soir, nous avons l'éternel, le redoutable, l'homme aux cheveux, telle boucle d'or sur son cheval, ça ne veut rien dire. Ewan est avec nous ce soir.
Bonsoir. Bonjour.
Bonsoir Ewan, quelle belle voix. Merci. Toi aussi, t'as une voix de GPS. Il est avec nous. Il n'était pas là dans le dernier Calicast. Il a chômé, il a pas voulu venir. Il a dit, oh non, moi Thomas, je peux plus te voir. Il est de retour, Michel.
Salut.
Michel, j'ai eu un petit problème de voix à ce moment-là.
Ah bon.
Et madame, là, celle d'Hostipédia, enfin, je vous l'avais dit la semaine dernière, elle est connue aux États-Unis, elle a eu l'Oscar de la meilleure voix. Mesdames et messieurs, Cécile Archiviste.
Ouais.
Ou Dusty Archiviste, ou Dusty, ou Archiviste, ou c'est. Enfin, débrouillez-vous, enfin,
mais
faites ce que vous voulez.
Mais pas Poulette 33.
Voilà. Mais pas Poulette 33, effectivement. Quelqu'un usurpe son identité sur Snapchat. Je mène l'enquête, nous trouverons qui est l'auteur de cette infamie. Alors ce soir, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Pour cause, nous allons parler de The Enemy of the World, qui est un audio. Je suis encore la semaine dernière, moi.
Allez,
qui, qui est un épisode. Oui, je suis fatigué. Hein. Qui est un épisode avec le Second Docteur, qui avait, enfin, qui était l'un des fameux épisodes supprimés qu'on a retrouvé récemment. Bonne nouvelle, hein, n'est-ce pas? Donc, nous allons d'ailleurs, avant de parler de ça, nous allons passer aux news.
Les news.
Les news. Alors ce soir, qui s'occupe des news? Eh ben, c'est Michel.
Oui.
Et il y a quoi comme news?
Bonne news. Un scénariste le plus attendu de tous les scénaristes de Doctor Who, c'est Steve Thompson.
Oh mon Dieu.
En tant que scénariste pour la huitième saison de Doctor Who.
Alors pour ceux qui savent pas, qui se souviennent pas, Steve Thompson, c'est celui qui avait fait le moyen mais passable épisode de Cursed of the Black Spot, ou comme dirait Michel, de Cursed of the Black Spot. Et c'est surtout lui qui a fait l'abominable, l'atroce, le destructeur de Invasion of Time, Journey in the Center of the TARDIS.
Il y en a qui l'ont aimé cet épisode quand même.
Oui, bon, mais à mon avis, ils n'ont pas vu Invasion of Time parce que ça contredit beaucoup. Mais on en avait déjà parlé, on a fait un Calicast, on aurait écouté le Calicast, on en parle.
Un peu là-dessus, ça va m'énerver.
Voilà, voilà.
Cet
on passe à autre chose, on passe à autre chose, hein, voilà. Donc voilà, il sera de retour et il écrira pour quel épisode apparemment? Le cinquième.
Ah, il y a déjà l'ordre des épisodes?
Oui, oui, il y a quelque chose comme ça, c'était précisé. Enfin, ça avait été dit quelque part, je crois. Bon, bah sinon, voilà, donc il sera là, il sera de retour hein, pour nous jouer un mauvais tour. Peut-être que ça va être bon, vu que c'est un nouveau docteur, peut-être que là, il sera peut-être plus à l'aise. Il faut quand même préciser qu'il a travaillé pour la série Sherlock, il était bon. Ouais. Mais bon, Sherlock et Doctor Who, c'est pas du tout la même chose.
Alors...
Donc voilà. D'autres news.
Alors, The Web of Fear bat des records de vente aux
États-Unis.
Ah non, pas aux États-Unis.
Même pas aux États-Unis, en Angleterre.
Je confonds avec une autre news qui m'a mis ça. Donc, bonne nouvelle hein, pour les DVD de la série classique Doctor Who. The Web of Fear, c'est bien vendu. Hein.
Oui, oui, très bien vendu. En une semaine, tu me reprends si je me trompe, il s'est vendu à 15 000 exemplaires. Une semaine, rien qu'en Angleterre, c'est impressionnant. C'est même le record depuis le premier DVD de la série classique, savoir la première édition de The Five Doctors. Je précise également quand même, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il a déjà battu le record de The Enemy of the World, qui lui avait déjà battu le record. Mais quand on voit ça, finalement, les deux DVD de la série classique qui se sont vendus le plus, peut-être sont des histoires qui avaient été perdues, qu'on a retrouvées. Malgré tout, sont aussi des histoires où les DVD n'ont pas de bonus.
Oui, et je trouve ça vraiment dommage.
Alors,
ouais, ça sent un peu le truc produit à l'arrache.
Alors, non, mais évidemment, c'était pour que ça sorte pour les 50 ans. Et puis, on sait que Philip Morris n'est pas en lien avec la BBC et qu'il a moyen. Et il y a des sous, une histoire d'argent derrière. Donc, je pense que c'était de toute façon pas possible qu'on ait. Je pense que la BBC ont préféré finalement sortir ça sans bonus qu'on attende 2 ou 3 ans, quoi. Au moins, on était pendant l'excitation des 50 ans, etc. Donc, bonne ou mauvaise idée, chacun se fait son avis, mais en tout cas, c'est quand même un record malgré tout. Et ça montre quand même l'intérêt que finalement ont les fans pour la série classique. Parce que c'est vraiment un très très bon chiffre. Michel, d'autres news ?
Ah oui, l'édition Blu-ray de Adventure in Space and Time pour les États-Unis, les Américains vont être bien, bien gâtés comparé à nous.
Comparé aux Anglais aussi. Parce
ouais,
que...
aux Anglais. Ouais,
nous, on n'a rien du tout.
Pour le moment, c'est ça aussi. Après, pour le moment, c'est vrai qu'au Royaume-Uni, en Angleterre, on n'a pas d'infos qui a infiltré, mais on peut penser que si ça sort en Blu-ray aux États-Unis, peut-être que. Prochainement, il y aura peut-être une édition Blu-ray pour les Anglais. Voilà. Donc voilà. Après niveau contenu, je sais pas, mais peut-être il y aura éventuellement des bonus qui viendront avec et tout le fin-tintouin avec. Voilà.
Ok, d'autres. Encore une fois, les États-Unis avantagés. Enfin, c'est un peu décevant. Qu'ils aient ça en première qualité. Déjà nous quand en Angleterre c'est sorti, c'est comme The Day of the Doctor. J'ai entendu beaucoup de gens, enfin j'ai entendu quelques personnes, enfin lu surtout quelques personnes dire que les bonus dans les DVD étaient bons. Moi j'étais très déçu parce que tous les DVD, que ce soit le Blu-ray ou DVD de The Day of the Doctor et le DVD de Adventure in Space and Time, sont disponibles sur internet et pas illégal. Et hein,
t'as dit tout.
Comment
tout, ouais, bref.
Tous les bonus, quoi ?
Oui, tous les bonus.
J'ai dit quoi ?
Tous les DVD.
Oui, excuse-moi, ça arrive la fatigue. Ouais, tous les bonus sont disponibles. Ouais, tous les DVD également sur Amazon. Oh, tu me fais. Oh, arrête !
En bref.
Les bonus sont aussi sur internet et légalement.
Et c'est légalement, c'est sur le site de la BBC. Voilà. Il y en a certains sur YouTube et ils sont tous sur le site de la BBC et c'est vraiment dommage en fait.
Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bonus exclusif au DVD.
Exactement, voilà. En fait, Cécile, elle synthétise, quoi. Je pourrais même dire que c'est Jean-Michel Jarre, synthétise. Bon.
Mais non.
Quoi J'ai récupéré Gallicast, il y a un épisode, une référence à Jean-Michel Jarre, je suis désolé. D'ailleurs, vous avez pensé quoi de la semaine dernière, de mon petit How Many Nine Months, en générique de fin ?
Il était superbe, ça, franchement, ouais. Merci.
Ça me faisait plaisir. Alors, cette semaine, je sais pas trop, je sais. The Brick Can't Help You Know Is in Geneva.
The Brick Can't
Help You Know Is. Enfin, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, vous verrez à la fin. Et la semaine prochaine, je mettrai la musique de la parade de Disney, parce qu'elle reste dans la tête.
Il y a le troisième docteur aussi, I Am the Doctor.
Ah, pourquoi pas ?
Who is the Doctor, pas chanté par.
Who is the Doctor in Distress ?
Ah non, pas Doctor in Distress, non.
Ça, je ne peux pas, ça c'est que pour. J'ai la version longue.
Bon, Doctor in the Tardis alors.
Bon, évitons, on va arrêter là, parce que là, on dérive, mais à fond, là. Et voilà. Oui, bon, c'est moi qui ai dérivé en premier, mais voilà. Donc, on va passer, et ça allait vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de news. T'as d'autres news, Michel ? On ne sait jamais.
À part que Mark Gatiss a parlé de Peter Capaldi dans un magazine très renommé en Angleterre, London Lesbian and Gay.
Voilà, alors, juste
avant, pas moi qui ai écrit la news, c'est que la lire.
Justement, faut la lire correctement. Juste avant le Gallica, je l'ai débriefé parce qu'il a déjà fait les. Alors, non, il a été interviewé par Digital Spy, le London Lesbian and Gay Switchboard, hein. Donc, les 40 ans de London Lesbian and Gay Switchboard, c'est un événement auquel il était invité. Voilà Michel. Et parle de Peter Capaldi. Qu'est-ce qu'il dit sur
Peter Capaldi ? Faudrait le remettre dans le contexte. Moi j'arrive les mains dans les poches et là il y a Thomas qui me fait. Tu fais les news Michel ?
Bah oui, c'est comme ça.
Ok.
Flexibilité Michel.
Ok.
Vous vous rendez compte, il lave son linge en public alors qu'il a une demi-heure. Il a une demi-heure pour les apprendre des news.
C'est pas faux, mais je tiens à dire que c'est parce que Thomas nous a retardé.
Oui, mais moi je vais à Disney demain, donc voilà, faut que j'organise. Bon, allez. Bon,
il dit quoi sur Capaldi
Qui est différent de Matt Smith et David Tennant. Il est plus âgé. Il a une logique de perception.
Alors, est-ce que tu peux juste lire ce qu'il a dit? Bon, je vais le faire.
Alors, Peter a une énergie très différente de Matt Smith et David Tennant. Il est plus âgé, ce qui change tout. Et c'est fou ce qu'un changement peut faire. Matt était subi et j'étais très triste de le voir partir. Mais c'est aussi génial de voir du changement. Et c'est toujours le cas avec le docteur. Le docteur est toujours le docteur, mais on peut s'amuser beaucoup avec l'attente des spectateurs. Tout le monde sait comment l'ancien docteur réagit à une situation, mais maintenant, ce n'est plus le cas.
Voilà, Michel et la conviction quand il dit. Voilà, donc oui, apparemment le personnage va être complètement différent et j'ai hâte de voir parce que Margatis en général a une opinion. Oui, une opinion.
Ouais, il souligne beaucoup le fait qu'il est plus âgé que Matt Smith et Daniel Tennant, donc ça va peut-être jouer beaucoup sur peut-être le caractère du 12e docteur.
Il a aussi qualifié le premier épisode de la saison 8 de palpitant, et moi je me demande quelle planète détruite dans la série classique ils vont ramener cette fois.
Scarrow.
Ah, Scarrow, c'est déjà fait, il en faut une nouvelle.
Ouais, mais elle est déjà revenue qu'une fois dans un téléfilm qui n'est pas considéré comme canon.
Mais si, il est canon, bon.
Mais si, dans le Dalek, il est revenu. Même il y a une espèce d'édifice de Dalek, et tu vois, il y a l'œil.
Bon.
Il construit un immeuble en forme de Dalek. C'est marrant.
Ouais.
Bon, allez, on revient. On fait la critique.
Bon, bah apparemment, il n'y a plus de news. Donc là, on va tout de suite passer à la critique de The Enemy of the World.
Le sujet de la semaine.
Le sujet de la semaine, The Enemy of the World. C'est génial, quand même. Une histoire avec le second docteur. On a rarement parlé du second docteur dans le Gallicast. Et là, je pense que c'était vraiment l'occasion d'en parler, grâce à cette histoire qui est revenue, comme vous savez, en pair avec The Web of Fear. Et donc, cette histoire, eh ben oui, Ewen, mais de quoi ça parle ?
Alors tout d'abord, The Enemy of the World, donc l'ennemi du monde, c'est une histoire que je ne peux que vous conseiller de regarder parce que l'état dans lequel a été retrouvée la pellicule, c'est magnifique. C'est vraiment de la superbe qualité, c'est très surprenant. Et il y a Patrick Troughton en maillot de bain.
Ouais, c'est
donc
vrai.
Voilà.
Enfin, en maillot de bain d'époque, hein, vous verrez. Hein, oui, vous allez être déçus. Hein. Vous allez être déçus. Il y a un overboard trop classe. Non, c'est Overcraft. Overboard, c'est pas pareil.
Ouais, c'est un
overcraft. L'épisode qui commence avec le docteur qui balance tous ses vêtements et qui...
Ouais. Allez à la mer.
Donc, en bref, il y a le docteur ainsi que Jamie et Victoria qui arrivent sur Terre en 2018 et qui se disent hey, « Eh ben, on va aller se baigner. » Sauf qu'il y a des gentils/méchants qui vont le capturer parce qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Salamander qui est... L'ennemi du monde.
Oui.
Regardez, vous voyez, c'est le titre de l'épisode.
Il y a l'ennemi du monde, mais qui a bonne réputation. Enfin, c'est très particulier en fait. Hein,
c'est
parce
assez
que...
compliqué à expliquer, mais c'est très intéressant. En gros, bah, Salamander est un espèce de.
Dictateur,
mais qui a une très bonne
image. C'est Vladimir Poutine, mais on ne le sait pas en fait. Les gens ne le savent pas.
Non, je vais avoir des. Ouais.
Non, mais en fait, en gros, comment dire, on va éviter de. Oui, évidemment, on avait compris. Tais-toi, c'est pas grave, te rattrape pas. Déjà, tu vas mourir. Bon. Et non, mais en gros, c'est vraiment un dictateur, mais pas aux yeux du peuple, en fait. Aux yeux du peuple, c'est quelqu'un de très clair, il est très fort dans ce qu'il manigance. C'est un fin manipulateur, et oui. Tellement bon manipulateur que personne ne se rend compte que c'est un enfoiré fini.
Tu sais, il y a beaucoup de dictateurs, tu sais, Adolf Hitler, il a été élu par le peuple. Hein.
Alors, un point Godwin au
début. Non, mais alors, tu sais, les dictateurs sont souvent vus par les citoyens. C'est, après, c'est le. Parce que l'épisode aussi joue avec cette histoire de manipulation par travers les médias et comment le peuple voit. Qui renvoie une sorte d'image de sauveur de.
Avec une main, il caresse les bébés, avec l'autre, il leur pique leurs bonbons.
Voilà.
Oui, voilà, c'est ça. Hein.
Comme Émile Louis.
Bon, et alors. Donc, on parle toujours de Docteur Who. Et comme vous vous en doutez, Docteur Who, c'est pas vraiment une intrigue politico, je trouve pas de deuxième mot à mettre après ça, mais c'est politico, très intéressant. Ça, et je sais pas si on peut vraiment dire ce que fait. Salamander, puisque c'est pas révélé dès le début, mais c'est très intéressant. Et c'est, je crois, le seul épisode de la saison qui ne suit pas la basique intrigue « Oh là là, regardez, il y a un monstre ».
Oui, et quelque chose qui m'a aussi vraiment plu dans cette histoire, c'est qu'il parle de Salamander aurait créé une machine, ça on le sait dès le début, qui récupère, complètement révolutionnaire, qui récupère les ondes du soleil et qui le transforme, enfin, l'énergie solaire, et le transforme en énergie à part.
Voyez, pour alimenter des fermes.
Voilà. Ça, les gens, ils ont créé le panneau. Enfin, ils ont quand même créé le panneau solaire avant le temps, quoi. Avant le clock.
Je crois que c'est pas à travers un satellite ou ce que je m'appelle bien.
Moi, il a un réseau de satellites.
C'est une sorte d'histoire. Mais c'est un peu le monde sous sa coupe avec cette histoire, cette technologie qui lui permet à la fois de faire pousser des récoltes, mais à travers, il fait aussi des catastrophes naturelles.
Alors, il y a un quelque chose justement là, qui lance un peu l'optique de l'humanité dans Doctor Who. Je voulais la comparer peut-être un peu à Star Trek classique. Dans Star Trek, la vision de l'humanité, c'est en gros, il y a un premier contact, et à partir du premier contact avec les extraterrestres qui étaient les Vulcains, d'un coup, tout va bien. Doctor Who, c'est le contraire, c'est l'humanité va en prendre plein la gueule dans l'avenir. La planète va être polluée, on va se ramasser des éruptions solaires dans la gueule, des choses comme ça. C'est très sombre pour l'évolution de l'humanité jusqu'à l'âge de l'espace, quoi. Et déjà, donc, à partir de Troughton, on commence à voir ça, donc des guerres et compagnie. Et là, on est sur 2018. Il y a peut-être une surpopulation, mais les gens crèvent la faim, en fait. On crève la faim, et il y a un problème énergétique. Il n'y a plus de ressources. Donc Salamander, en fait, il c'est un peu le sauveur. Il arrive, il dit « Moi, j'ai un réseau de satellites parce que j'ai du blé, j'ai pu les construire.
» Et à la fin, il a vraiment du blé, hein. Enfin,
oui. Faut regarder. et il propose à des pays, donc à la fois, il va les nourrir, puis il leur dit aussi « Je vous protège aussi contre des phénomènes sismiques, parce que la planète se dérègle, et compagnie, contre des phénomènes volcaniques, ce genre de choses. » Donc Salamander, c'est vraiment une sorte de dictateur bienveillant, quoi. Et derrière, il y a une résistance qui se dit « Ouais, mais en fait, nous, on pense que Salamander, il est bien gentil comme ça, mais il y a forcément quelque chose de pas clair derrière. » Et c'est ces gens-là qu'en fait, que le docteur, Jamie et Victoria vont rencontrer donc, dès le début, donc sur la plage, et ils vont être sauvés par, comment elle s'appelle, Astrid ?
Astrid, oui.
Astrid qui les emmène en hélicoptère jusqu'à chez elle.
Alors Michel, il la compare, vous allez voir, c'est la seule personne qui...
Non, mais elle a une tenue en cuir qui fait me fait penser à une sorte de néo-futuriste Napoléon.
Il a vu Napoléon dans son costume.
Sadomaso, mais oui.
Non, je pense qu'il a quelque chose aussi, ouais, sur les bottes, le collant, enfin le futal un peu moulant à la Napoléon.
Ouais.
Oui, vas-y.
Il disait, après, ouais, par rapport au personnage Salamander, joue bien un peu son double qui est joué, on pourrait le signaler, qui est joué aussi par Patrick Troughton.
Et d'ailleurs, je vais rebondir sur le fait que tu disais ça par la première critique que je vais lire de la soirée, celle de Aman Matsuo, pour ceux qui ne savent pas. Je crois que c'est elle qui fait 8 de cœur, c'est ça, hein ?
Oui, c'est elle qui fait le blog français dédié au 8e docteur.
Oh, c'est absolument incroyable, je vous conseille d'y aller.
8-2-cœur.
Alors, je vais lire sa critique. J'ai beaucoup aimé cet épisode. La capacité de Patrick Troughton, à changer de rôle en quelques secondes est bluffante. Surtout qu'il n'en joue pas que deux, le Doc et Salamander, mais trois, le Doc, Salamander et le Doc qui se fait passer pour Salamander. Et on distingue parfaitement les trois. On sent que les acteurs s'amusent particulièrement et le rythme de l'arc est plutôt pas mal fait. Le plan de Salamander est de plus, moins basique que d'ordinaire. Il y a une vraie élégance dans ce méchant, c'est vrai. Je trouvais ça absolument génial, même dans le rythme. J'ai trouvé que le rythme faisait pas du tout série classique.
Ouais, mais en plus, il fait ce personnage Salamander, dans le côté un peu génie, il fait vraiment le double maléfique du docteur, parce qu'il se montre aussi intelligent que lui dans des manipulations. Ah oui, parce que ça, en plus, faut revenir, parce que c'est un épisode assez particulier. Après, c'est ce qui est bien dans Doctor Who, parce que on a plusieurs styles d'histoire, et là, c'est vraiment une histoire un peu... Comme Wendy, c'est du thriller politique. Tu dis au début, tu dis, mais c'est pas très esprit Doctor Who quand même. Mais après, oui, je vais dire entre guillemets oui, parce que c'est pas non plus, ça va partir dans des complots politiques tout ça. Mais après, c'est pas vraiment ça reste un côté divertissant. C'est vrai qu'on dit politique.
Il y a un plot twist, et il y a un plot twist qu'on peut pas vous spoiler.
Sérieux, ça rime avec chiant. Non, et là, ça reste quand même toujours un peu dans le divertissement, mais c'est vrai, il y a du complot, des histoires d'empoisonnement, des trucs comme ça va aller... vous allez voir des retournements
ouais.
À tout va.
Peut-être signaler les différences entre le docteur et Salamander. Donc, effectivement, c'est des sosies. Hein. Alors Salamander, il a une coiffure un peu différente de celle du docteur. Le docteur, il a une coiffure Beatles. Là, il a une raie sur le côté.
Le monosourcil.
Le monosourcil, il fronce vraiment les sourcils. Il est un peu plus bronzé. Et il parle avec une imitation d'accent mexicain.
On va dire, il le surjoue moins que moi qui fais l'accent espagnol.
Vas-y, continue.
Je pense qu'il y a assez peu de maquillage. Ils ont peut-être passé un coup d'auto-bronzant pour lui donner un côté un peu plus bronzé. Je suis pas sûr qu'ils aient fait vraiment le coup du mono-sourcil, à part peut-être passer quelques coups de crayon pour renforcer, mais c'est vraiment...
Il y a des moments où t'as vraiment l'impression, quand même. Hein.
Je pense que c'est quand même le jeu de son visage hein, qui fait ça à Troughton. Quoi. Et ouais. Il a aussi tout son langage corporel qui change. Je veux dire, Troughton, il est magique là-dedans. C'est pas juste imiter un mec. Je veux dire,
il a les bras toujours tendus vers son corps. Il a...
Oui, il est toujours. Ouais,
et toi, la façon de positionner ses mains.
C'est... Les épaules raides et tout ça. Et puis là, il regarde les gens un peu par en dessous, quoi, avec un air un peu méchant et tout ça. Et ça. Et la façon dont il a de parler aussi, qui est un peu comme s'il mâchouillait un cigare. J'ai trouvé ça assez sympa. Quoi. Il est vraiment, vraiment impressionnant. Troughton, cet acteur était un génie.
Là aussi où il est fort, c'est le travail de sa voix, comme tu le dis, mais en même temps, c'était un comédien qui aussi faisait des audiodramas, hein, un petit peu. Donc, c'était son métier. D'ailleurs, il y a la célèbre photo promotionnelle que tout le monde connaît.
Avec le micro BBC.
Ouais. Voilà, avec le micro BBC. Et c'était pendant qu'il enregistrait un audiodrama. Et ça montre à quel point il est talentueux. Parce que faire ressortir toutes les émotions juste par la voix, c'est compliqué. Et là, vous coupez l'image, vous pouvez limite écouter sa voix en audio et savoir tout ce qu'il veut faire ressentir. C'est incroyable. C'est vraiment un excellent acteur sur l'aspect visuel, là, pour le coup. Il y a aussi l'aspect auditif.
Ouais, pour le coup, on dirait que cet épisode aussi, c'est un épisode qui a été écrit pour lui, pour faire la part belle à ses talents d'acteur, comme on lui donne carrément deux rôles différents.
Ah, c'est plus qu'une impression, le script a été écrit pour qu'il joue les deux. Ouais. Mais je pense que c'est sa demande, il me semble, hein, qu'il avait annoncé qu'il voulait faire ça. C'est pas la première fois d'ailleurs que le docteur joue deux rôles. Il y avait eu le cas avec le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est ça, avec le docteur qui joue. Ça, ouais. L'abbé d'Amboise, ouais. Par contre, ouais, là, c'était pas le même genre de performance que ce que fait Troughton dans cet épisode. Quoi.
Ouais. Troughton, c'est un acteur génial.
C'est un dieu.
Ouais. Bah, justement, en parlant de ça, il y a Benjamin Martin, mon ami Benjamin, qui dit il avait fait la même avec Hartnell, ça aurait pu être récurrent à tous les docteurs. Oui, c'est vrai que ça aurait été drôle.
Bah, chaque docteur. Bon, techniquement, Eleven l'a un peu fait.
Ouais.
Un petit peu.
Enfin,
pas vraiment, mais dans l'épisode dont j'ai oublié le nom.
Cybermen ?
Oui, l'épisode des Cybermen de la saison 7.
Oui.
Night in Silver ? Je sais plus.
Oui, Nightmare in Silver.
Nightmare in Silver, voilà.
Avec quand il a un espèce de circuit collé sur la poire.
Il y a aussi. Ah oui, pour revenir à la scène de la plage, il y a aussi un moment qui m'a fait très marrer et qui. Ressent un peu le côté un peu innocent que le docteur peut être un peu un enfant dans sa tête et qui demande à Jamie et à Victoria d'aller chercher des seaux et des pelles pour faire des châteaux de sable.
Oui, ça c'était énorme. Mais c'est le côté vraiment clownesque de Troughton. Effectivement, le docteur, c'est vraiment le. Il, à la fois, il est sérieux, il est aussi du genre à avoir un éléphant gonflable dans sa chambre, quoi. Effectivement, aller faire des pâtés sur la plage. Et, ça revient souvent, notamment avec Seven, cette histoire. Je crois qu'il y a plusieurs références à. Il parle de l'histoire d'aller faire des châteaux de sable avec Seven.
J'ai un autre petit avis que je vais lire, celui de Stéphanie Loistron, qui met un excellent arc qui, pour ma part, m'a plu, entre autres, car pour une fois, il ne s'agit pas de combattre de vilains monstres, mais de déjouer les plans machiavéliques d'un odieux dictateur. Je ne sais pas si ça a déjà été fait avant, mais j'aime bien, car ça change un peu dans Doctor Who. L'idée géniale d'avoir confié ce double rôle à Pat Troughton, qui s'en donne à cœur joie, et puis Jamie moulé dans son ensemble cuir, que dire de plus.
Tiens, on va revenir sur les compagnons Victoria et Jimmy. Moi, ce que j'ai bien aimé, Jimmy se montre vraiment...
Héroïque.
Oui, héroïque.
Bon, alors, Jimmy, après, c'est le meilleur compagnon de toute l'histoire de l'humanité, on est d'accord?
Non, c'est Adric.
Bon. Non, c'est Ace, mais bon.
Alors, Adric, non, c'est pas... Compagnon. Adric.
Alors, Adric.
Attention.
Je veux dire, et pour Victoria, bon, elle reste un peu également à elle. Parce que vous, il faut dire, remettre dans le contexte, Victoria, on va dire, c'est pas la compagne la plus courageuse et surtout connue pour. Elle crie beaucoup quand elle voit des monstres. Ça fait. Docteur elle crie déjà pour Docteur, ne vous baignez pas
Je voudrais défendre un peu Victoria quand même, parce que souvent les gens disent c'est Victoria, elle crie dès qu'elle voit une araignée. Faut remettre les choses dans le contexte. Et alors, Victoria, déjà, elle vient d'une époque où les femmes n'avaient pas vraiment leur place et elle a eu la chance d'être éduquée par son père qui était un scientifique. Et qui croyait en l'éducation des filles. Et elle a vu son père massacré par les Daleks. Et donc le docteur l'emporte avec elle et tout ça, donc elle se retrouve dans un environnement qu'elle connaît pas, même si elle fait confiance au docteur. C'est quand même une fille qui a pas l'habitude de voir de la violence, et voyager avec le docteur, ça veut dire quand même se faire capturer, se faire torturer, voir des gens mourir. Victoria, elle s'en sort quand même plutôt bien, quoi, pour quelqu'un qui est pas du tout là-dedans, parce que Jamie, par exemple, lui, c'est un guerrier, hein, le docteur l'a récupéré en plein milieu d'une guerre, en fait.
Là, il disait, il y a quand même une scène, je crois que c'est l'épisode, je sais plus, c'est cette partie, où elle jette un plateau. Bon, ça arrive, ils vont capturer après, mais bon.
Oui, mais...
le souligner, voilà.
Non, il y a quelque chose, il y a un personnage aussi qui m'a beaucoup plu, c'est la métisse qui s'impose vraiment là, comme, j'ai oublié le nom de ce personnage.
Celle qui goûte les plats à la
main. Oui, exactement.
Aria.
Qui s'avoue être finalement l'un des personnages les plus héroïques de toute l'histoire. Elle est très charismatique. Son personnage est génial. Malheureusement, son destin est... Bon, vous verrez dans l'histoire, mais voilà quoi, c'est...
Bah, justement, son destin, moi, c'est un mini-spoil, mais je pourrais la comparer à Katharina. Je pense que ça a laissé cet effet sur le docteur aussi, quoi. Même si c'est peut-être un peu moins visible parce qu'ils sont un peu en train de courir, mais je pense que ça a le même effet que Katharina.
Mais ce qui est bien avec ce personnage de Faria, c'est ça fait du bien de voir dans les années 60 une femme noire qui donne des ordres à des hommes blancs.
Docteur Who, il y avait beaucoup ça, hein, ça parce que et bon, qui on a... donne,
et qui mais donne non, Docteur Who est une série raciste, voyons.
Non, mais ce qui est bien par rapport dans cette histoire, à travers Astrid et Faria, dans cette histoire, après c'est vraiment c'est vrai que dans la SF a été très précurseur dans le rôle des femmes qui ont autre que je crie devant un monstre.
Tu parles de quelle compagnie ?
Non, là je parle de Astrid et de Faria qui sont des femmes qui s'imposent. Astrid sait se battre. Il y a même cette scène assez marrante où je crois que c'est le personnage Bruce qui dit à des gardes.
Oui, il y en a un qui en parle à la fenêtre.
Vous faites attention à la fille parce que une scène après, il lui a foutu une raclée, quoi. Elle lui a foutu une raclée, quoi.
Il y a une scène qui, c'est dans le premier épisode, quasiment tout au début, qui est extrêmement drôle entre Astrid et le docteur, où Astrid est blessée en sauvant le docteur, Jamie et compagnie, là. Et donc le docteur lui colle un pansement sur l'épaule et elle essaye de le flatter en lui disant, le docteur lui dit mais est-ce que vous me trouvez méchant ou quelque chose comme ça, je dis pour moi vous êtes l'homme le plus beau du monde ou un truc comme ça, mais elle a une espèce d'énorme compliment qui est gros comme une maison, et avec le docteur qui est complètement sous le charme, et après elle lui demande s'il est prêt à assassiner
ou
un truc comme ça, genre il dit, est-ce que je peux vous demander quelque chose, et il fait oui tout ce que vous voulez, parce qu'il est complètement sous le charme de la flatterie, et après bon moi je voudrais que vous tuiez machin, et là boum, avec le sourire qui retombe, avec ce côté vraiment clownesque qu'a Troughton de faire ça, quoi.
Il y a aussi là, quand il lui montre la vidéo, quand ils veulent lui montrer la vidéo qu'il est... ouais, il y a un dictateur Salamander qui lui ressemble. Et t'as le docteur qui dit il a une bonne élocution.
Ouais, il a pas l'air il a pas l'air méchant.
Je sais plus c'est quoi ce qu'il dit vraiment. Il dit et en plus il est très séduisant, n'est-ce pas, Jamie? Du fait qu'il lui ressemble beaucoup en fait.
Je vais en profiter pour placer une autre petite critique de Manon Rouviane. Manon Rouviane, pour ceux qui connaissent pas, certains son nom doit dire quelque chose à certains des auditeurs. Elle fait une magnifique sphère qu'elle a donnée à certains acteurs de la série. C'est une artiste.
Et c'est la petite chou-fleur de Colin Baker.
Voilà, Colin Baker qui la connaille. Et oui, elle se.
Et puis surtout, elle a énormément de goût parce que elle aime la meilleure compagnie. Hein. De la série, à savoir Ice.
Non Vous arrêtez ça. Hein. Bon, alors, je vais dire sa critique. Un épisode génial. La performance de Patrick Troughton incarnant deux personnages complètement différents est bluffante. L'intrigue est excellente, palpitante. Bref, 11 sur 10 à cet épisode.
Il y a aussi un truc que j'aime bien, le fait que les retournements de situation d'histoire, tu découvres des personnages que tu penses c'est des salauds. En fait, c'est des personnes bons... En fait, c'est des salauds, des personnes qui pensent que ça va être des salauds, c'est des pourris, mais en fait, ils sont pas si méchants que ça, des trucs comme ça, vraiment. Bon, il y a un personnage qui s'appelle Bennick, qui est une tête à claque royale. D'ailleurs, il se prend de claque par Faria, qui est sympathique. Bon. Qui est joué par Milton Jones.
L'histoire en intégralité par minute. Hein,
je voulais parler de cet acteur, Milton Jones, qui va jouer après dans d'autres épisodes de Doctor Who, parce que vous allez le voir dans The Invention Android, The Invention.
Deux histoires
du quatrième Docteur.
The Android Invasion.
Ouais. Cet acteur, il a un look assez reconnaissant avec ses oreilles très décollées.
Reconnaissable.
Ah. Oui, très connaissant, oui.
Ouais. Mais j'aime bien ce perso, parce qu'on ne comprend pas le fait que ce soit un connard, quoi. Mais voilà, vous allez voir, c'est au moins quelque chose qu'on peut dire, c'est que même les méchants sont charismatiques, les gentils, tout, voilà. Ils ont pris de très bons acteurs, il n'y a pas des acteurs qui passent, comment dire, inaperçus. Chacun impose son petit truc, son petit style, et finalement, c'est pour ça qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Donc, on va passer aux notes. Quelle note tu donnerais, toi, Dusty ?
Tu voulais pas qu'on peut peut-être parler de la confrontation, sans spoiler.
Oui, la confrontation.
Ça va être dur. Avec deux.
Il n'y a qu'une seule fois où, à un moment donné, il y a Salamander face au docteur, et franchement, c'est un truc
Patrick Troughton. Et que Patrick
Troughton. Voilà, il n'y a que Patrick Troughton face à Patrick Troughton. C'est génial. C'est 1968. L'effet est magnifique. Ils sont face à face. Et ça fait pas. Il n'y a pas une grosse coupure au milieu de l'écran. C'est super bien fait. Je veux dire, sans spoiler, mais Salamander tient le docteur par la veste, quoi.
Par le col, ouais.
Ils sont collés nez à nez, quoi. Et l'effet est parfait. Et ça date de 68. Franchement, c'est super moins pour l'époque. Je sais pas comment ils l'ont fait. Et puis, je pense que c'est tourné en deux fois, mais je sais pas comment c'est recollé.
Là, ils ont trouvé un figurant qui lui ressemble.
Oui, de dos et ça, mais il y a quand même une scène où à un moment on les voit quasi tous les deux face à face.
Nez contre nez, ouais.
Pas non plus. Enfin voilà, on n'en est pas loin et c'est impressionnant.
En fait, Patrick Troughton joue un peu 4 rôles.
Par contre, à la fin, le docteur a quand même eu le temps d'aller se changer avant la confrontation finale. C'est le seul truc que j'ai trouvé un peu bizarre.
Tu sais, sinon tu le justifies dans La Cité de la Peur, quoi. Il y a une explication très simple, au moment où il le dit, t'as une musique qui se lance, quoi. Finalement, t'entends rien. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave, parce que ça rend la scène plus classe, on arrive à les différencier assez facilement. Et puis le cliffhanger de fin qui t'encourage finalement à voir The Web of Fear, l'histoire dont on parlera la semaine prochaine.
Mais c'est bien parce que ça finit.
Par
cette scène finale, cette confrontation qui est un peu l'apothéose, la montée en puissance de cette histoire formidable. Ah, et je voulais aussi vous faire remarquer un petit détail que tout le monde va s'en foutre, parce que c'est le détail de merde que tout le monde s'en fout. Ils ont fait un raccord entre la jupe de Victoria et le kilt de Jenny et son bénet.
C'était fait exprès.
Voilà, c'est la petite remarque, le petit détail que tout le monde s'en fout. Ils ont assenti sa jupette au kilt de Jenny. Enfin,
Un commentaire de Stéphanie Loistron à propos de Salamander qui disait que question double maléfique, je le mets au même niveau que mon très cher brigadier leader dans Inferno.
Ah oui.
Voilà, et venant de Stéphanie, on comprend que elle met la barre haute puisque le brigadier c'est son personnage préféré.
Et dans Inferno, alors Inferno étant mon histoire préférée, je suis totalement d'accord.
Il y a un certain Jonathan le Targa qui.
Jonathan, il a quitté le Gallicast, on n'en parle plus, je suis désolé. Je lui ai volé, je le remplace.
Souligne quand même que cette confrontation finale a été super bien réalisée. Voilà.
Mais moi, je tiens quand même à dire que depuis Thomas, on est payé 10 fois plus.
Ouais.
Ouais.
Vous êtes payé 10 fois plus rien.
J'ai pris plein de kilos.
Voilà.
Tu as mangé, la dernière fois que t'es venu. Hein.
C'est vrai.
Il n'est pas mort. Donc, déjà, c'est une récompense.
Sinon, il y a qui d'autre qui a donné son avis sur.
Après, c'est à peu près. Quelqu'un qui dit y avoir. C'est Guillaume Leroutier qui dit j'ai commencé ce matin, je suis rendu à la quatrième partie. Le jeu de Trotton est génial, un très bon épisode. Juliette de Césillon qui met j'en suis qu'à la moitié pour l'instant, et franchement, j'adore. Tout était le seul docteur dont je n'avais encore rien vu, et je l'ai tout de suite adoré. Dès les premières secondes, j'étais mort de rire quand il va se baigner et tout. L'arc est génial, on ne s'ennuie pas. Il n'y a pas de longueur inutile, il y a de l'action et du suspense. Je pense que c'est un épisode parfait pour convertir les gens au classique.
Oui, c'est sûr. Il y a quelques-uns effectivement qui ont juste commencé cet arc et se régalent déjà. Je pense déjà le fait qu'on ait retrouvé le truc en entier, que ce soit plus un recon, ça aide, mais c'est vrai que l'histoire est prenante dès le début. Il y a un bon rythme d'entrée, quoi. Ça commence avec le débarquement sur la plage qui est rigolo, et puis pouf, là ça s'emballe direct, puisque ils se font poursuivre, et puis l'intrigue salamandeur est intéressante, très compliquée, absolument pas linéaire, pleine de fausses pistes, mais pas du tout construit comme un policier. Quoi. C'est,
ouais.
Tout le scénario est vraiment très très bien. Quoi. Et c'est pas un scénario classique de la SF, et c'est très loin d'être un scénario classique de Doctor Who. Derrière, c'est vraiment du double bluff dans tous les sens.
Ouais. Et même si c'est une sorte d'histoire de complot politique, tout ça, c'est pas chiant, ça reste quand même divertissant.
Oui, complètement.
Aux gens, parce que les gens, quand ils pensent politique, ils pensent sérieux, donc chiant.
Et c'est la première fois que je vois...
C'est passionnant.
C'est la première fois que j'en ai dans une histoire en noir et blanc, enfin des trois premiers docteurs, une histoire en six parties où tu te dis, ah non, là il y a une longueur, surtout qu'il y avait souvent déjà l'univers est très lent, mais il y a quand même... On s'y habitue à cette lenteur. Mais même quand on s'habitue à cette lenteur, il y a quand même des moments où c'est très lent dans la série, encore plus lent qu'habituellement dans la série classique. Et là, dans cette histoire, jamais. Il n'y a aucun moment où j'ai trouvé une lenteur. C'est une histoire en six parties.
Disons que ça ne nous fait pas du Dr. Enzo Silurians, quoi.
Voilà, exactement. Ouais, avec The Freak, qui est là pour le coup très bonne, mais lente sur certains aspects.
Justement, ce que je disais ce matin, c'était... Doctor Who, c'est, même si je me régale à regarder tous les épisodes, d'un docteur à l'autre, c'est quand même très aléatoire la qualité des épisodes, enfin des arcs, en se disant est-ce qu'il y en a qui sont vraiment. Il y en a des fois, on croise des arcs très très bons, et puis d'autres qui sont. Il y a quelques scènes sympas, mais globalement, l'arc est passable. Les arcs de Troughton, même s'ils ont quasiment tous été perdus, même si on en retrouve maintenant, je dirais qu'il approche la perfection. C'est très rare de trouver un arc de Troughton qui soit. Disons en dessous de la qualité de The Enemy of the World. Moi je trouve qu'il a vraiment des arcs qui sont bien écrits, et puis il était exceptionnel avec une complicité avec Fraser Hines, donc surtout exactement. À partir du moment où il y a Jamie, là le truc s'est emballé, et il fait un sans faute, et c'est vraiment dommage qu'on ait perdu tous ces arcs, parce que même si vous regardez les recon, les histoires sont fantastiques, et ne serait-ce que juste avoir la voix de Troughton, vous l'imaginez, alors en plus derrière, une fois qu'on les retrouve et qu'on a l'image et qu'on voit son jeu d'acteur, ce type c'était un dieu.
Totalement. Mais ce que je dis, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que même à l'audio, il arrive à te faire tout comprendre. First, dans les reconstitués, tu t'ennuies quand même un peu. Trotton, non. Là, par exemple, pour le prochain Gallicast, je me suis re-regardé The Web of Fear, et cette fameuse, il y a une partie qui n'a pas été retrouvée. Et les reconstitués arrivent quand même à pas trouver ça lent finalement.
Ouais, non, ça passe très bien. Ouais. Web of Fear est très bien, mais on verra la semaine prochaine. Si
voilà. Donc, alors, on va y aller, votre note.
Ah bah, 10 sur 10. Hein.
Ah, carrément.
Ah ouais, non, The Enemy of the World, il est parfait. Le scénario, le jeu d'acteur, le rythme, c'est un truc de 68. Et on fait pas mieux, on fait même moins bien maintenant, quoi.
Oui.
Michel ?
Moi aussi, il fait 10 sur 10, tu restes scotché dans ton siège à regarder ça devant ton écran. Oh, ouais, Ewan, 10 sur 10.
J'avais pas envie de mettre 10 parce que je sais que Doctor Who c'est plus de. Non, c'est 800 épisodes tout pile. Et qu'il y en a vraiment des géniaux, mais non, je vais mettre 10 sur 10 parce qu'elle est parfaite en fait. Et pour son époque, c'est juste. C'est des histoires qui étaient à l'époque, bien qu'elles ont été réutilisées des milliards de fois dans plein d'autres trucs. On s'ennuie pas devant, ils y arrivent et c'est super bien réalisé. Et Patrick Troughton et Jamie et 10.
Ok, moi je mets 9.
Parce que c'est moins bien qu'Inferno.
Déjà, et parce que c'est pas mon histoire préférée de Troughton, c'est The Invasion pour moi, qui m'a pas ennuyé. qui a eu pour moi le même aspect. J'ai eu exactement la même réception. Donc je lui mets 9 ou 9,5 parce que je la mets limite au même niveau que The Invasion. 10, ça lira, c'est seulement pour Inferno. Hein. Faut pas rêver non plus. Il y a un moment, faut pas déconner. Donc non, 9 ou 9,5. Allez, on va dire 9,5. Allez. Je lui mets 9,5. Voilà, une histoire géniale. Enfin, je pense qu'on a bien résumé. Tous les aspects sont là. La réalisation est très bonne. C'est vrai que, surtout quand on connaît un petit peu, il y a des dossiers, que ce soit sur Gallifrance en français, ou il y en a même, c'est trouvable un peu partout, des dossiers qui expliquent comment était réalisée une histoire de Doctor Who à cette époque-là. C'est quand même impressionnant de voir la qualité de réalisation avec les caméras qui se trimbalaient, le rythme de production. Ils ont quand même réussi à te faire ce produit qui est magnifique, d'une excellente qualité. Et c'est surtout, tu te poses la question, mais comment il faut être fou dans sa tête pour supprimer une histoire comme ça? Moi, je la mets sur une étape. Voilà, après.
Mais les mecs, ils se posaient pas la question.
Voilà, oui. Et c'est ça qui est triste. Parce que, imaginez-vous, enfin voilà, si jamais on avait jamais retrouvé The Enemy of the World, on serait passé à côté d'une des meilleures histoires de toute la série. Donc, c'est quelque chose d'incroyable. Et c'est finalement une fierté de l'avoir retrouvé. Et j'espère qu'on retrouvera d'autres histoires. Achetez le nom, il n'y a pas de bonus. Prenez-le sur iTunes, si vous voulez, iTunes. Vous pouvez l'acheter quand même. De toute façon, ils le vendent pas aussi cher que les DVD avec des bonus. Il reste encore l'édition collector où il n'y a pas de bonus non plus, mais il y a un joli fourreau en carton. Donc voilà. Et c'est joli dans une étagère.
Juste pour revenir, pour en rajouter encore une couche sur la prestation de Troughton, à cette époque-là, il ne faisait pas 150 prises pour une scène. La bande était chère, ils n'avaient pas beaucoup de temps. Globalement, toutes ces scènes que vous voyez, elles sont shootées en une seule fois. Donc c'est, il faut que les acteurs soient prêts, quoi. Et Troughton, lui, était capable de faire ça. Il lisait sa scène, il donnait trois mots à Jamie, enfin à Fraser Hines, et le truc, il passait à chaque fois du premier coup. C'est pas du tout tourné comme c'est tourné maintenant. Où le réalisateur, il est pas content avec une intonation dans un truc. Non, c'est, ça passe, c'est tout. Et c'est parfait.
Alors, je vais lire un petit peu des dernières critiques. Sébastien Terra, j'ai adoré, on voit vraiment tout le talent de Patou. Il arrive vraiment à s'imprégner de deux personnages différents, et en méchant, il est pas mal du tout. Kevin Doué, je suis pas d'accord sur un point, superbe épisode, j'ai eu parfois du mal à savoir s'il s'agissait du Docteur ou de Salamander. Moi, j'arrivais toujours à reconnaître, et ça se voyait, ils faisaient ensemble que ça se voit. On va finir par l'avis de Léa Victoria, qui dit « L'histoire est trop cool, et Patou... Oh, » décidément, tout le monde l'appelle Patou, entre parenthèses cœur même, hein. Patou entre parenthèses cœur, je vais l'appeler comme ça maintenant, est génial, il nous montre à quel point il est un acteur talentueux, en plus la qualité d'image est vraiment bien, les gens qui ont restauré les images ont fait un bon boulot, par contre le DVD est un peu pauvre au niveau bonus je trouve, vu qu'il n'y en a pas à part un trailer Doctor Who and DVD qui parle de The Web of Fear, et dans The Web of Fear il y a The Enemy of the World en DVD, donc c'est effectivement très très pauvre. Donc voilà.
Espérons qu'il y aura peut-être une édition augmentée, un peu comme ils ont fait pour les rééditions de Via Stex ou des choses comme ça, ce serait sympa. Quoi.
Mais après, faire un coffret avec les deux, ouais.
Fraser Hines est toujours en vie, toujours très active dans Doctor Who, ça serait l'occasion aussi de. Deborah Watling, de les interviewer et de rajouter au moins une piste commentaire comme c'est fait sur le reste des.
Ou si au pire il y a des problèmes d'audio à cause de Philip Morris, tout ça. Mettre un audio avec, pourquoi pas, ça dérangera personne je pense. Donc voilà, alors j'aimerais bien, moi on peut rêver hein, tu sais. Donc voilà, donc je pense qu'on a un peu résumé tout, ben voilà, on a terminé, je pense que ça vous a bien, j'espère que ça vous a donné envie de voir cette histoire qui est vraiment géniale. Le résumé est disponible sur Gallifrance. Je crois que Jonathan y a pensé et a mis le lien Amazon où vous pouvez l'acheter. Voilà, en passant par nous.
Non, mais je suppose que ça sera fait un jour.
Mais il va le faire, il va le faire. T'es sûr qu'il l'a pas fait ?
Non.
Il a pas dans... Ah bah non, il a fait que la nouvelle série pour les DVD, c'est vrai. Donc voilà, bon, ça arrivera, vous inquiétez pas. De toute façon, vous avez la vidéo. Donc voilà, donc c'est tout pour ces Gallicast. Avant de nous quitter, je dirais quand même que de nouvelles émissions vont arriver sur la Galli Radio. Également des best-of des Gallicast, je pense. Voilà, donc ça va arriver tout ça bientôt. On va essayer vraiment de remplir la Galli Radio qui, pour l'instant, diffuse essentiellement de la musique. Donc voilà, c'est tout pour ce Gallicast. Eh bien, va-voum.
Va-voum.
Agent Brett has his laser set for the Maverick man with a master plan. Brian can't play away later with the Dalek or a Dominator. Cat got stuck in an airlock, but the doctor told Steven to leave her. The brick can't help you now, he's in Geneva. A Yeti's found on the underground, and Jamie's tamed a Dalek. A single flash of that round moustache aimed out a Time Lord's dashing back. The Cybermen have reached Big Ben with a stony face deceiver. The brick can't help you now, he's in Geneva. That ice clear snow white mountains up where heroes take the air, and doctors drive their souped up Oomobiles. Where Sergeant Benton makes the tea in a Swiss cafetiere, and Joe Grant Tardar's passed in kitten heels. Almost 10 armed Havoc men are firing blanks at model tanks. The doctor plays recorder in a TARDIS out of order. Morbius and Omega don't have anybody either. The brick can't help you now, he's in Geneva.